RFI, 9h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Un nouveau journal avec vous, Édouard Dupénoit. L'actualité africaine, le Niger à la une, et cette attaque attribuée à des terroristes dans le Tillabéri.
Oui, à Bani Bangou précisément, hier matin, 34 soldats tués au moins, indique le ministère de la Défense. Riposte sanglante, disent aussi les autorités. La menace tout sourire du Nigeria aux États-Unis. Quel dommage, dit le chef de la diplomatie, quel dommage ce serait d'étendre le travel ban quand on imagine les fructueux contrats miniers que nous pourrions passer ensemble. Le 20 juin, journée internationale pour les réfugiés. Près de 43 millions de personnes dans le monde. Éclairage africain à suivre dans quelques minutes. Au Mali, les partis politiques sommaient de justifier leur utilisation des fonds publics sur près de 25 ans, sauf que ces partis politiques sont officiellement dissous. Et puis à Essaouira, enfin, le mariage éclatant de la musique casamançaise venue du sud du Sénégal avec celle des Maalem Gnawa. Reportage dans une dizaine de minutes. Une violente attaque donc attribuée à un groupe terroriste hier matin à Bani Bangou, région de Tillabéri dans l'ouest du Niger. Selon le ministère de la Défense de la Transition, 34 soldats ont été tués, 14 blessés, des dizaines de terroristes tués également dans la riposte. Plusieurs sources locales et sécuritaires indiquent encore que les assaillants se sont ensuite retirés vers la frontière malienne. Précision Magali Lagrange.
Bani Bangou s'est réveillé hier au son des détonations et des crépitements d'armes automatiques. Après de violents combats, la localité est occupée par les assaillants, de la fumée visible au-dessus des locaux de la préfecture, pillée, incendiée avant l'arrivée de renforts. L'opération attribuée au groupe État islamique au Sahel, active dans cette zone, est complexe. Des assaillants venus du sud et du nord-est de Bani Bangou prennent en étau sur deux fronts les camps de la garde nationale, la préfecture et les positions de la gendarmerie et de l'armée. De sources sécuritaires, les positions militaires de la zone avaient été alertées de l'imminence d'une attaque. La veille, des colonnes de motos lourdement armées avaient été aperçues à la frontière malienne, se dirigeant vers Bani Bangou, première préfecture après cette frontière. Cette zone du Niger avait déjà été meurtrie début 2020. Deux importants postes militaires avancés avaient alors été détruits par une attaque de l'État islamique à Chinagodar et Inates. Plus de 200 soldats avaient été tués.
De sources sécuritaires encore, le commandant en chef de la position militaire de Bani Bangou a été tué dans les affrontements. Le Niger par ailleurs, où les autorités de transition annoncent la nationalisation de la Somaïr, filiale du géant minier français Orano qui exploite de l'uranium dans le nord du pays. L'un des symboles aussi des tensions très vives entre le Niger et la France. Selon la RTN, télévision nigérienne, la nationalisation a été décidée face au comportement, je cite, irresponsable et déloyal d'Orano, détenu par l'État français, je cite encore, ouvertement hostile au Niger. Les richesses du sous-sol encore, et cette fois nous sommes au Nigeria voisin, où le ministre des Affaires étrangères n'hésite pas à menacer l'administration américaine d'un bras de fer. Youssouf Tougar voit venir d'un mauvais œil les menaces de l'administration Trump d'élargir le travel ban, les restrictions d'entrée sur le territoire américain. Quel dommage, dit-il. Le Nigeria aurait tant à offrir aux marchés américains en matière de métaux critiques, Clotilde Hazard.
Youssouf Tougar a rappelé à Donald Trump les opportunités qu'il pourrait perdre. Nous aimerions conclure des accords avec les États-Unis, mais les restrictions en matière de visa sont des obstacles non tarifaires, a-t-il déclaré, ajoutant « ce serait dommage car nous sommes une terre d'opportunités ». Le sol nigérian est en effet riche en métaux critiques et rares, un groupe de 17 éléments comme le lithium ou le samarium, indispensables dans les secteurs de la défense, des véhicules électriques, de l'énergie et de l'électronique. Il est le cinquième pays producteur de métaux rares au monde, premier du continent africain, avec 13 000 tonnes produites en 2024, soit 80% de plus que l'année d'avant, selon les derniers chiffres du service géologique américain. Pour les États-Unis, l'Afrique représente une alternative intéressante face à la Chine, qui domine et contrôle le marché des métaux rares. Le pays représente environ 90% de la production mondiale. En avril, en réaction à la hausse des tarifs douaniers mise en place par Trump, la Chine a limité les exportations de terres rares vers les États-Unis qui ne possèdent qu'une seule mine en Californie et s'approvisionner en Chine, ce qui pourrait mener à une pénurie de ces matières premières dans le pays.
Clotilde Hazard, une journée internationale, aujourd'hui 20 juin, pour braquer un peu la lumière sur le sort des réfugiés. Les Nations Unies estiment que dans le monde, 42 700 000 personnes correspondent à cette définition. Un réfugié, c'est une personne qui se trouve en dehors du pays dont elle est citoyenne à cause de la crainte bien établie d'y être persécutée. que ce soit pour sa race, sa religion, son appartenance à un groupe social ou même ses opinions politiques. Près de 43 millions de personnes donc. En Afrique proprement dite, entre 8 et 10 millions. C'est avec vous qu'on fait le point. Eva Massy, la corne de l'Afrique et l'Afrique de l'Ouest sont à la fois les plus grandes zones de départ, mais aussi d'accueil.
C'est en Afrique de l'Est que l'on trouve le plus grand nombre de réfugiés sur le continent. L'Ouganda accueille à lui seul environ 1,7 million de réfugiés, ce qui en fait le premier pays d'accueil en Afrique et le troisième au monde. Le Tchad est devenu en 2024 le deuxième pays d'accueil du continent et héberge plus d'1,2 million réfugiés, juste avant l'Éthiopie, troisième pays d'accueil, qui en héberge un peu plus d'1 million, principalement venant du Soudan du Sud, de la Somalie et de l'Érythrée. Les causes de départ sont multiples et interconnectées, mais les conflits armés et les violences restent la principale cause. Le Soudan du Sud, le Soudan, la République démocratique du Congo et la Somalie comptent parmi les plus grands pays de départ. Mais dans la région du Sahel aussi, l'instabilité a provoqué une hausse des réfugiés, leur nombre ayant triplé entre 2020 et 2024 et atteignant plus de 650 000. Maliens, Burkinabés et Nigériens ont fui principalement en Mauritanie, au Togo et en Côte d'Ivoire. Une tendance se confirme, 67% des réfugiés restent dans les pays voisins de leur pays d'origine et plus de la moitié sont des enfants, souvent confrontés à la malnutrition, aux violences ou sans accès à l'éducation.
Eva Massy à 7h36 en temps universel. Même heure à Bamako, on en vient au Mali à cette dizaine de jours encore pour montrer patte blanche. Les ex-partis politiques, aujourd'hui dissous, ont jusqu'à la fin du mois pour justifier de l'usage qu'ils ont fait des subventions d'État, ces enveloppes qui leur étaient accordées chaque année. L'audit concerne spécifiquement la gestion de l'aide publique par les partis politiques entre juillet 2000 et mai 2025. Sauf que cette volonté de clarification survient justement alors que les partis officiellement sont dissous. Amadou Koïta est le président du parti socialiste Yélène Koura. Il affirme être surpris par cette décision. Il invite la Cour suprême à respecter la loi.
Nous avons été surpris de voir ce communiqué. Et surtout à un moment où le gouvernement, en prenant ce décret, interdit tout regroupement, interdit toute rencontre des responsables des partis politiques et au niveau de leur siège, même dans les domiciles privés. Donc nous invitons surtout la Cour suprême à dire le droit. Nous invitons la Cour suprême à appliquer la loi. Nous savons que la justice est la colonne vertébrale de toute nation. Nous faisons confiance en notre justice. Nous savons que les hommes et les femmes qui sont au niveau de la Cour suprême veilleront à faire respecter l'état de droit, veilleront à faire respecter la République. Le gouvernement, en prenant cette décision s'est fondée sur les concertations nationales qui ont regroupé 1500 personnes, en oubliant que nous avons voté une nouvelle constitution en 2023 où 3 millions de Maliens sont allés voter. Sur les 3 millions, 97% ont voté pour le oui. Et quand 3 millions de Maliens qui votent, et c'est 1500 personnes qui peuvent remettre en cause la légitimité de ces 3 millions de Maliens. Nous osons espérer que la Cour suprême, avant le 30 juin, s'attuera sur notre requête, avant le 30 juin, dira le droit, avant le 30 juin, appliquera la loi, avant le 30 juin, invitera le gouvernement à respecter les lois de la République. C'est à cela que nous attendons.
Amadou Koïta à la tête du Parti Socialiste, Yélène Koura, propos recueillis par les rédactions en Monde d'un camp et en full des deux RFI. Des sinistrés sans nouvelles et qui laissent entendre leur colère. Un an et demi après l'explosion du dépôt de carburant du port de Kaloum, le cœur battant de Conakry, les anciennes victimes déplorent de ne toujours pas savoir ce qui s'est précisément passé. Ce 18 décembre 2023, un peu après minuit, la déflagration, le blast qui cause la mort d'au moins 25 personnes et qui souffle les habitations alentour. Où en est l'enquête? Où sont même les enquêteurs? Question que posent donc les sinistrés eux-mêmes qui n'ont pas vu les résultats des investigations annoncées à l'époque. Mamoudou Sifouké-Touré est le président du comité des sinistrés des hydrocarbures de Kaloum.
C'est paradoxal. Le gouvernement a annoncé l'enquête. Au niveau des sinistrés, nous sommes formels, nous réclamons l'enquête comme point de départ de toute issue à la crise. Mais nous n'avons reçu aucun enquêteur. Aucune information depuis le 18 décembre, on nous a dit qu'il y aura l'enquête. Aucune communication sur les enquêtes. Et nous-mêmes, nous voulons que ces enquêtes-là aboutissent. Après l'enquête, que les responsabilités soient situées. Ensuite, nous devons être indemnisés parce que c'est la loi qui dit. Après l'explosion, il y a eu un constat du CIE. Et après le constat, l'indemnisation se fait au prorata du préjudice subi. Jusqu'à ce jour, aucune communication sur ça, on n'en parle même pas. Tout ce qui les intéressait, c'est de nous dire, allez à plus de 50 km, on va reconstruire ici pour vous. Sur divers angles, nous avons été touchés. C'est la psychose quand même qui a accompagné, parce que nous avons été, nous avons reçu beaucoup de gaz lacrymogène à chaque fois que nous demandions, à chaque fois que nous réclamons nos droits. Mais nous continuons quand même à réclamer. l'enquête parce qu'il s'agit du plus grave incendie de notre pays. Cela ne peut passer inaperçu.
Mamoudou Sifoké Touré, invité de Sarata Camara hier dans Afrique Soir, entretien complet à réécouter sur RFI.fr. C'est au Maroc que l'on referme ce journal avec l'ouverture hier du 26e festival Gnawa. Cette idée géniale où les Maalem, les grands maîtres de cet art séculaire, invitent tous les ans des ambassadeurs d'autres musiques du monde. Hier, les Sénégalais de Bakalama Droit, venus de Casamance, dans le sud du pays. Le festival est gratuit, populaire, c'est toujours un franc succès. Guillaume Thibault y est l'envoyé spécial de RFI.
Sourire, embrassade et la sensation de voir de vieux cousins se retrouver. Venus de Casamance, les percussionnistes et les danseurs de la compagnie Bakalama, dirigée par Malal Ndiaye, ravis de la fusion avec les artistes locaux.
C'est des émotions très fortes. Moi, je pensais jamais, en quittant le Sénégal, qu'on peut vraiment cette musique du Sud le mettre directement avec cette musique marocaine. J'y pensais pas. C'est très puissant.
Avec le festival Gnawa, c'est le puissant Maalem, Hamid El Kasri, qui est à l'origine de cette création unique, avec la volonté de retrouver les racines du continent africain.
La musique transmet ce qui est bon, c'est aussi un moyen pour rencontrer d'autres cultures, c'est notre langue commune. Si je n'avais pas ce partage, je n'aurais pas de plaisir dans ma vie.
Un plaisir partagé sur scène avec la chanteuse sénégalaise Kialoum. Comme un père et une fille, ces deux-là s'amusent, tout en offrant au public du festival Gnawa, en liant l'arabe et le wolof, une prestation hors du commun, de haute volée.
La musique pour moi c'est l'amour. Pour moi, l'amour, c'est le don de soi, être là pour les sans-voix et chanter leurs mots. Pour moi, la musique, c'est la vie, tout simplement.
Guillaume Thibault et Sawira, RFI.
Festival gratuit qui dure tout le week-end à Essaouira. Essaouira, où il est 8h42.
Merci Edouard Dupénoit, très bonne journée à vous.